Renault.
L'autre jour, un chef d'atelier Renault me demande « Monsieur José, vous pourriez nous aider à recruter pour le service après-vente ?» Et le voilà qui me parle de ses métiers de plus en plus technologiques, avec des formations régulières, bref, le gars passionné. Moi je dis, il ferait mieux de parler à ma place.
Les ateliers Renault Car Service recrutent des mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, débutants ou confirmés. Postulez sur recrutement-réseau.renault.fr. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Source l'Automobile Magazine 2023.
RMC.
Vous pouvez poser cette question dans la vestiaire, si vous avez des couilles de faire ça. Parce qu'il y a des joueurs, ils sont morts, morts.
C'est très important, la concurrence. Qui est meilleur ? Qui est meilleur ? C'est des meilleurs.
Monsieur, vous êtes un con.
After Paris.
Nicolas Villas.
C'est le retour de votre podcast After Paris, le premier de l'année 2023. Meilleurs vœux, plein de réussite, la santé et des buts, bien sûr. Avec nous, notre Jimmy Brown à nous. Salut Jimmy, bonne année.
Bonne année Nico, bonne année à tous.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Jimmy pour 2023 ?
Je vais te raconter une petite histoire. À chaque fois que j'échange des messages avec mes potes pour 2023, je dis la santé.
La Ligue des Champions.
Et après je mets le smiley coupe et oreille à côté. Ouais, voilà. c'est ça que tu peux me souhaiter, la Ligue des Champions.
Et bah lui aussi il en a des trophées, des titres et des oreilles. Roland Courbis, salut mon Roland.
Salut les amis.
Bonne année Roland.
Salut à tous et bonne année.
Qu'est-ce qu'on te souhaite à toi alors en 2023?
Ah putain, je réfléchis toi depuis le premier là. Ah, la santé, là, c'est original.
C'est bien ça.
Ouais, la santé, ouais.
T'en fous de la Ligue des Champions, toi?
Hein?
T'en fous de la Ligue des Champions?
Ah ben, si tu n'as pas la santé, tu peux pas avoir la Ligue des Champions.
Ah, Jérôme Thomas, notre producteur, me dit le retour de la victoire à 2 points.
Ah, voilà.
Tu t'en as mis une pièce dans la machine.
Voilà.
C'est pas bon,
c'est pas
voilà.
Bon, ça. Et le carton orange?
Hein, le carton orange aussi. Là,
je vois qu'il y a les améliorations de l'arbitrage de cette tour et mon carton orange il reste toujours à la poubelle.
Bon, venez, on se fait un podcast carton orange, un truc comme ça. On va inventer un concept avec Roland.
On aura 4 heures.
Alors l'année en revanche, elle a pas bien débuté pour le Paris Saint-Germain. Défait 3-1 à Bollaert qui a bien fêté ça.
Oh, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé?
Eh ouais, oh lélé, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés, chantés Francaise et ses joueurs après la victoire de Lens 3-1 face au Paris Saint-Germain. Jimmy, je crois que ça t'a pas beaucoup plu ce truc-là.
Écoute, à froid, je suis redescendu un petit peu. Je vais pas te mentir, moi, le dimanche soir, je fais l'after, donc j'ai pas vu la séquence en direct. Je l'ai revu en rentrant chez moi vers 1h du match. Je regarde, je tombe là-dessus.
Il a failli foutre le feu à la porte.
Sur le moment, j'étais pas content. Non, mais après, voilà, en préambule, il faut dire que Lens a fait un super match. Il faut dire que Lens est super
sympa. C'est pas ça, on va en parler de ça.
C'est important de le dire. Moi, le seul truc, effectivement, ils ont l'habitude de célébrer comme ça, les Lensois. Moi, j'ai un coach en face de moi. Je sais pas, moi, j'imagine mal Roland. Alors, on sait que c'était la 100e aussi, faut le préciser, de Francaise.
Ouais.
Donc il était particulier. Voilà, ils ont voulu lui faire cet hommage là, de lui laisser lancer le cri de guerre. Moi, je trouve que c'était pas trop sa place. Voilà, je sais pas. Moi, si je suis joueur du PSG, que je tombe sur ces images là, je me dis bon, au retour, on lui passera un petit message à Coachez quand même.
Ouais, si c'est pas la 100e, je suis d'accord. C'est difficile. Mais là, allez, entre la 100e, le fait que c'est une nouvelle année, la bonne année, et puis ce match où tu bats quand même le Paris Saint-Germain qui était invaincu, allez, on peut se laisser aller.
Ouais, moi je suis sûr que si c'est la 100e le 1er janvier et que tu tapes le PSG, tu fais pas ça toi.
Possible, bon.
Mais bon, après voilà, ça reste du domaine de l'anecdote et Francaise est un super coach et les Lensois ont fait un super match.
Et après 24 matchs, le PSG s'incline pour la première fois cette saison. Alors première question qu'on va développer dans cet épisode, dans ce podcast, cette première défaite du Paris Saint-Germain face à Lens, est-ce qu'elle est inquiétante ou pas? Est-ce que c'est un simple accident selon vous? Juste comme ça, en guise d'ouverture, Roland.
Ah ben non, je vois pas du tout un accident. Je vois tout simplement une équipe du Paris Saint-Germain qui, avec cette composition d'équipe-là, ne serait pas sûre d'être champion.
Jimmy, simple accident ou pas selon toi?
Je pense pas que ce soit un simple accident et je pense que c'est aussi la continuité de performances moyennes qui ont eu lieu. Bah, rappelez-vous, 3 jours avant Lens, il y a eu Strasbourg. Paris s'impose un peu miraculeusement quand même. S'il n'y a pas cette perte de balle de Bellegarde en toute fin de match dans les arrêts de jeu, ce pénalty accroché et converti par Kylian Mbappé, on s'en sort un partout, on a déjà des interrogations. Et même avant la trêve, le PSG était invaincu jusqu'à présent, mais il y a plusieurs matchs où, en termes de contenu, on n'était pas emballé par ce que proposait le PSG quand même.
Alors on va écouter les explications de Christophe Galtier et Francaise après la rencontre.
Sur l'ensemble du match, évidemment que Lens mérite sa victoire.
Il y a un paquet de matchs dont je me souviens, mais forcément celui-là, il est un petit peu différent.
On savait que Lens était très fort dans la transition. Quand Lens était en bloc bas, ça allait très vite, ils étaient très forts dans la transition.
Et puis surtout parce qu'on a fait une grosse perf, voilà, et que les joueurs ont fait un match exceptionnel.
Sur les points forts de l'équipe lensoise qui a cette capacité à être très fort à la réaction à la perte.
On est resté calme toujours, engagé mais calme, et c'était aussi très très bien de ce côté-là.
Voilà, Lens mérite sa victoire, concède Galtier. Est-ce qu'il salue la prestation de ses joueurs? Est-ce que cette défaite du PSG, c'est pas avant tout la victoire de Lens, les gars? Parce qu'on dit beaucoup Paris a perdu, mais est-ce que c'est pas Lens qui a gagné finalement?
Oui, mais ça tu peux évidemment le présenter comme ça, mais je maintiens ce que je dis. L'équipe de Lens que l'on voit là, une équipe qu'on parle d'invincibilité de Paris Saint-Germain, on ne va pas débattre. Il faudra débattre aussi si les deux matchs nuls contre Benfica sont de l'invincibilité. Oui, évidemment, c'est de l'invincibilité, mais ça t'a coûté la place
de premier.
Premier, et ça t'a coûté aussi le Bayern de Munich au tirage au sort. Donc, pour en revenir à Lens, ben Lens, ils sont presque invaincus aussi. Lens, ils perdent un seul match, c'est contre le voisin d'à côté, Lille, en ayant raté un pénalty à 0-0, et après en se prenant un pénalty qui fait le 0-1. Donc, les matchs que nous avons vus, Lens-Paris-Saint-Germain, tu sais, la traditionnelle, si on se fait 10 matchs, 9 fois sur 10, si on fait 10 matchs avec la composition d'équipe de Lens et la composition d'équipe de Paris Saint-Germain ce soir-là, c'est pas sûr qu'il n'y ait pas 5 matchs d'un côté, 5 matchs de l'autre. Ça serait pas 9 pour Lens, comme s'ils avaient fait un miracle l'autre soir, et 1 pour le Paris Saint-Germain. Non, je pense pas du tout.
Jimmy, est-ce que c'est pas la victoire de Lens? Tu le disais d'ailleurs, hein, quand on écoutait là, le fameux chant d'après-match, tu disais, bon, ils l'ont mérité leur victoire, les Lensois quand même.
Oui. Après, je vais pas te mentir, on n'est pas sur l'after Lens non plus, donc je vais pas parler trois plombes des 100 et or, qui sont une super équipe, on l'a déjà dit, mais moi je te trouve sévère, Roland. Je vais te donner la compo quand même parisienne sur le match. On a Donnarumma, international italien. On a Hakimi qui vient de faire quatrième à la Coupe du Monde. Marquinhos qui était avec le Brésil au Mondial. Mukiele, dont tout le monde dit que voilà, c'est un bon joueur qui a joué à Leipzig, qui a quand même des références. Sergio Ramos, j'en parle pas. Danilo était à la Coupe du Monde. Fabián Ruiz Soler font partie des 23 meilleurs Espagnols puisqu'ils étaient au Mondial également. Marco Verratti, on va pas le présenter. Et devant, tu avais Ekitike, bon, qui est peut-être qui a un peu moins de références au plus haut niveau, et Mbappé qui est le meilleur joueur du monde. C'est ça le 11 parisien quand même, c'est pas rien. C'était pas comme s'il avait aligné tous les jeunes du centre de formation, etc.
Tu as malheureusement raison, mais après, en prenant un par un ces joueurs-là, et en ce qui concerne l'utilisation, quand par exemple tu as un problème, donc Galtier a ses idées. Aujourd'hui, ce que je constate du côté de Paris Saint-Germain, c'est que quand arrive Christophe, il passe à trois arrières centraux parce que toute l'année d'avant, on a entendu qu'il fallait mettre les trois arrières centraux par rapport aux deux pistons que tu avais sur les côtés. Là maintenant, les trois arrières centraux, ils ont été abandonnés définitivement, et c'est la question que j'aimerais bien lui poser.
On va en reparler dans quelques instants de la défense. Juste avant qu'on écoute l'autocritique de Christophe Galtier, après la défaite face à Lens, tu verras qu'avant de parler même de la défense, lui, il a eu une sensation différente et un peu plus globale de ce match-là.
D'accord.
C'est pas tant la défaite qui me déçoit ou qui m'agace, mais c'est la manière dont on a concédé nos buts. Je pense notamment au premier. On connaissait les points forts, on les avait identifiés, on en avait parlé, on avait travaillé. Même s'il y a eu peu de jours pour préparer le match pour les deux équipes, on savait que Lens était très fort dans la transition quand Lens était en bloc bas.
Voilà, il va dire, il avait la sensation d'une équipe désorganisée. Il n'a jamais vu son équipe comme ça, avec autant de déchets techniques aussi, Galtier.
Oui, d'accord, mais après, on a beaucoup de questions à lui poser, beaucoup de questions à se poser. Déjà, la première, c'est le numéro 1. À savoir le gardien de but, on a un Donnarumma qui pour moi est inférieur à Navas, mais qui va peut-être progresser sur les semaines et les mois à venir. Ensuite, on a un problème de latéraux, deux super arrière gauche avec Bernat et Mendes, ils peuvent jouer ni l'un ni l'autre. Et bien à ce moment-là, tu as Hakimi, c'est un arrière-droit. Eh bien, si tu en as un à pas faire jouer à son poste, c'est Mukiele qui va jouer à arrière-gauche. Et au moins, tu ne règles pas et tu ne rajoutes pas un problème à deux problèmes que tu as déjà. Au moins, Hakimi joue à son poste. Et alors que là, si tu mets Hakimi au poste d'arrière-gauche, ça fait un joueur en plus qui n'est pas à son poste. Après, les trois arrières centraux, tu as Ramos et Marquinhos, il n'y a pas besoin d'être détective pour voir qu'en ce moment, ils sont moins bons qu'avant. Sur le plan individuel, et peut-être dans ce match-là, eh bien, pour que tout le monde puisse aller profiter d'une organisation, jouer avec trois arrières centraux comme tu l'as fait pendant 4 ou 5 mois, Danilo, Marquinhos et Ramos, c'était peut-être la bonne solution. Après, Jimmy a raison, si tu regardes Ruiz, oui, ok, mais si tu regardes Ruiz, tu regardes Soler qui a été très moyen avec l'Espagne, qui a même raté un penalty, qui a encore une bosse sur la tête, et Kitike, il se demande s'il n'a pas découvert un nouveau sport là, depuis 15 jours parce qu'il joue au football. Finalement, on commençait à en douter. Et après, c'est sûr que la composition d'équipe, quand tu lis les 11 joueurs de Paris Saint-Germain, c'est une composition d'équipe avec des joueurs de très haut niveau. Mais par contre, au niveau de l'équipe, je la trouve très moyenne.
Au niveau de l'organisation, c'est ce que dit Galtier. Qu'est-ce qui t'a le plus contrarié, toi, finalement, Jimmy ? Parce qu'il parle de désorganisation, de déchets techniques. Galtier, c'est quoi, toi ?
Ce qui me contrarie, c'est que d'ailleurs, j'en profite, je me suis un peu emballé. Tout à l'heure, Fabien Ruiz n'était pas à la Coupe du Monde. C'est Sarabia qui est rentré en cours de match, qui lui était à la Coupe du Monde et qui a fait une entrée fracassante également. Non, pas du tout. Non, mais faut être exact quand même. Ce qui m'a contrarié, c'est qu'en fait, si tu perdais chez le 12e de Ligue 1 ou chez le 13e de Ligue 1, ou voilà, là, Lens quand même, tu sais que tu as ce match contre Lens qui arrive, tu sais que c'est un match important, que c'est ton dauphin, c'est la manière dont ils ont abordé ce match-là. Alors, ok, il y a des circonstances atténuantes, c'est un 1er janvier, c'est un retour de Coupe du Monde, etc. Mais dans l'attitude, moi, je trouve que ils sont passés complètement à côté, en fait, sur l'attitude, sur l'investissement, etc., sur l'envie de gagner. Il y a un déchet technique, mais qui est lié aussi.
Tu veux dire que Lens fait le match que tu espérais voir faire à Paris?
Oui, ou non, il faut pas, j'irai pas jusque là, parce qu'on sait, Roland, que les Lensois, c'est le match de leur saison, qu'ils l'avaient noté depuis un moment, etc. Mais tu sais que tu vas être attendu, faut que tu donnes un peu plus de répondants, quoi. C'est ça qui m'a surtout embêté. Là où je te rejoins, c'est sur, effectivement, l'inversion Mukiele-Hakimi, j'ai pas trop compris. Et après, j'ai même pas envie d'être trop sévère avec les remplaçants, parce que Galtier, qui d'ailleurs aujourd'hui, jeudi, en conférence de presse à la veille du match contre Châteauroux, a dit voilà, j'ai été très mécontent de l'apport des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer, qui ont été titulaires dimanche dernier. Je pense qu'il ciblait justement un Carlos Soler ou même un Fabián Ruiz. C'est difficile pour eux.
Ouais.
Ces joueurs-là, en fait, ils jouent jamais.
Ils savent que la route est barrée, quoi.
Bah oui, ils savent que la route est barrée, que tu vas leur donner un match cacahuète de temps en temps et tu vas attendre d'eux qu'ils arrivent et qu'ils cassent la baraque. Bah, c'est pas aussi facile que ça. Donc, moi, j'en veux aussi à Galtier dans sa gestion de l'ensemble de son effectif. Par exemple, autre incohérence pour moi, les jeunes, là, tu fais rentrer en fin de match Zaïre Emery et le petit Garbi. Alors, quand tu as des matchs faciles au Parc des Princes où tu mènes 3 à 4-0, tu leur donnes quasiment pas de temps de jeu, mais le jour où tu es mené et que tu dois être sauvé, là, tu fais appel aux jeunes pour essayer. Non, il y a quelque chose qui va pas là-dedans. Je sais pas ce que tu en penses, Roland, mais sur cette gestion, il y a un problème.
C'est vrai que là, c'est une question qu'il faudrait lui poser. Oui, c'est vrai que ce que tu dis est logique.
Voilà, c'est clair. Voilà, comme quoi, tu as raison. Non, mais je suis étonné qu'il te donne raison, du coup. 3 buts encaissés par le PSG hein, face à Lens. C'est une première, là aussi, cette saison. Alors, beaucoup se tournent vers la défense parisienne. Tu as touché le sujet il y a quelques instants du doigt, mon cher Roland. Explication de Marquinhos après la défaite contre Lens, justement.
Ils sont meilleurs physiquement que nous en ce moment. C'est normal. Nous, on revient à chaque côté. Il faut qu'on retrouve un peu la cohésion de groupe, la solidité. Dans les moments difficiles, ça va pas prendre des buts. C'est ça qui est un peu aussi les clés dans les détails, dans les matchs comme ça, très important à gagner.
Vous diriez que c'est physiquement que le PSG a galéré contre Lens ?
Ça peut faire partie, mais déjà, si on regarde les joueurs individuellement, Marquinhos, qui est interrogé, que c'est lui qu'on vient d'écouter, fait partie des joueurs qu'on ne reconnaît plus.
Donc, ça fait un moment qu'il n'est pas performant, déjà avant le Mondial. Hein.
Marquinhos, je me rappelle de ce passage qu'il a, un passage où il est très moyen, parce qu'en plus de ça, il est quand même exemplaire, il est si tu veux compétitif, agressif. Et quand je le vois dans ce match qui est un match cauchemar contre le Real Madrid où il est pas là du tout. Là, quand je le vois se faire éliminer comme n'importe quel arrière central moyen d'un crochet, ou si tu te fais éliminer aussi facilement, tu peux aussi faire un penalty très 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 facilement. On a un Ramos qui n'est pas au mieux de sa forme non plus. Et là, pour arriver à masquer cette méforme, la question qu'il faudrait se poser, Mais on se la pose après le match, mais il aurait peut-être fallu se la poser avant et demander à Christophe, tiens, avec le retour là et la réflexion, est-ce que c'était pas la meilleure solution ou la moins mauvaise de mettre trois arrières centraux, Danilo, Marquinhos et Ramos, deux pistons, et bien un piston côté droit sur son vrai côté qui est Hakimi et un piston côté gauche avec Mukiele, les deux milieux qui ont joué pendant 5 mois tous les matchs, Vitinha et Verratti, et ensuite trois joueurs offensifs, Mbappé et Kitike. Et Sarabia, pourquoi pas.
Juste, on s'arrête là-dessus, parce que c'est vrai que c'est quand même un débat qu'on a souvent eu, alors que ce soit dans l'After ou dans le podcast After Paris aussi. C'est quoi finalement la meilleure ou la moins mauvaise des formules pour le PSG au niveau de la défense ? Galtier l'a débuté avec 3 centraux, et tu le disais, on avait saoulé Pochettino du côté des supporters du PSG la saison dernière, mais une défense à 3. Il a débuté à 3, il revient à 2, c'est quoi alors ?
Alors écoute, moi, justement, tu disais, c'est pas la première fois, hein, c'est la deuxième fois qu'ils prennent 3 buts. Il y a eu 4-3 contre l'Atlético.
Ils avaient gagné, t'as raison.
Et c'était après le changement de système. Donc, depuis que t'es repassé à 4, ça fait 2 matchs que tu prends 3 buts, t'as pris 2 buts. C'est anecdotique, il y avait eu 7-2, mais contre Haïfa, tu prends 2 buts. Moi, je pense qu'ils étaient plus à l'aise. Sur un système à 3 derrière. Oui. Ramos, mais... aujourd'hui, on sera tous d'accord pour dire qu'il est plus capable, Roland, de jouer dans une défense à 2 stoppers, Sergio Ramos. Il a besoin d'être 3 pour être sécurisé.
Complètement.
C'est plus possible. Alors, Marquinhos était un peu moins à l'aise en début de saison dans le système à 3. On se disait que le système à 4 derrière, à 2 centraux, va lui permettre de s'améliorer. Finalement, c'est pas vraiment le cas. Donc, il a encore temps, moi, je pense, de repasser. Et peut-être que Galtier a ça en tête, hein, oui, par rapport aux échéances qui arrivent, dans un système à 3 derrière.
Mais à condition. Et là, j'insiste pour rectifier un petit détail qui me paraît très important, on dirait qu'il y a un règlement qui oblige de jouer soit à l'une, soit à l'autre. Je te donne une idée. Tu démarres avec trois arrières centraux. Et ces trois arrières centraux, c'est Danilo ou Kimpembe. Ramos, pour moi, c'est l'axial, c'est le libéro de l'époque. Et Marquinhos, c'est le côté droit. Et si, par exemple, à 30 minutes de la fin, tu n'es pas satisfait, eh ben tu sors Ramos, il va
tu mets Danilo au milieu,
tu fais rentrer un offensif et tu termines le match avec deux arrières centraux. On dirait que tu dois passer ou à trois arrières centraux ou à deux. Tu peux faire les deux.
Ouais. Tiens, juste petite parenthèse également, Marquinhos aussi en marge, hein, de la rencontre face à Lens, il a indiqué que sa prolongation était en bonne voie.
On en a déjà parlé dans un podcast précédent. Moi, je trouve ça hallucinant que le PSG, là, on a eu Verratti pour le match de reprise contre Strasbourg 2026. On a Marquinhos qui annonce donc que ça va se faire dans les prochains jours. On en avait parlé déjà. Moi, je pense que tu as des échéances importantes, très importantes qui arrivent, notamment l'huitième de finale de Ligue des Champions, et que rien ne t'empêche en fait d'attendre un petit peu. Parce que c'est pas comme si tu étais en fin de contrat en juin prochain, ces joueurs-là. Tu peux
Ramos,
attendre.
Ramos, oui.
Non, mais Ramos, moi, pour moi, enfin, je veux dire.
Terminé.
C'est terminé. Non, mais Ramos, c'est pas possible. Il a 38 ans. On voit ses matchs. Il a fait une vingtaine de matchs depuis le début de saison. On est en mesure de juger un petit peu Sergio Ramos. Ça a été un joueur, moi, que j'ai adoré, qui a été probablement le meilleur défenseur du monde pendant des années.
Fort possible.
Mais c'est plus ce joueur-là aujourd'hui. Non. Tu ne construis pas avec Sergio Ramos. Le PSG peut
pas
construire avec
Sergio
Ramos.
Bon, la bonne solution pour l'utiliser. Il n'y en a peut-être pas, allez. Mais si on cherche, allez, la
moins mauvaise, c'est 3 derrière.
Et pas mauvaise du tout. C'est 3 derrière et lui, axial.
Bah bien sûr. On l'a même pas eu. Même quand il était à 3 derrière, c'était pas lui l'axial.
Donc le libéro, appelons ça pépère. Tu le vois, tu en as un à Lille, tu en as un à Montpellier, tu avais Hilton, tu en as un à Nice. À 37-38 ans, tu peux encore jouer arrière central à ce poste-là. Mais jouer arrière central, côté droit, routier. Dans les duels et tout, non, là je vois plutôt Marquinhos.
Allez, autre élément important, c'est d'expliquer cette défaite du PSG face à Lens, peut-être les absents aussi.
Voilà, nos deux joueurs, que ce soit Léo et Né, n'étaient pas là, mais il n'y a pas d'excuse à avoir sur le fait qu'on a perdu parce qu'on avait des absents, entre autres. Non, on va avoir une deuxième partie de saison avec beaucoup de matchs, il y aura des absences, il y aura des blessures, des méformes, des suspensions. Il faut savoir être vraiment meilleur, même avec l'absence de joueurs majeurs.
Voilà, comme le rappelle Galtier à Lens, Messi n'était pas là, Neymar non plus. Alors, bien que ça ne doive pas servir d'excuse, comme dit Galtier, on ne peut pas analyser cette défense sans prendre en compte ses absences, Roland.
On peut quand même s'en servir comme explication. Tu ne peux pas te priver de Neymar et de Messi comme de n'importe quel joueur. Donc, ce sont des joueurs très difficiles à remplacer. Alors, c'est sûr qu'on peut faire mieux. avec les deux absents. Mais en fait, ça fait quand même deux lourdes absences.
Qui a le plus manqué pour toi ? Messi ou Neymar ?
Pour Mbappé, pour moi, c'est Messi. Les passes de Messi aux appels d'Mbappé, je trouve cette relation énorme et très compliquée pour les adversaires.
Jimmy ?
Oui, mais Neymar aussi est en mesure de donner des ballons, les deux, enfin c'est difficile, c'est deux monstres. Pour moi, Messi, Neymar, évidemment que ce n'est pas le même PSG sans ces joueurs-là. Mais là où je rejoins Roland, et puis en fait, et même Galtier qui le dit, oui, on doit quand même, quand on est le PSG, pouvoir faire mieux, même sans ces deux superstars. Maintenant, effectivement, tu enlèves à n'importe quelle grosse équipe deux de ses meilleurs joueurs, elle va être forcément impactée, hein, que ce soit Manchester City, le Real, le Barça, le Bayern, toutes les grosses équipes.
Et même si Jimmy nous a donné les 11 joueurs quand même talentueux de ce 11 du Paris Saint-Germain, je maintiens que ce 11-là, organisé de cette façon-là, n'est pas sûr d'être champion.
Et juste, hein, alors face à prochain match du PSG, face à Châteauroux en Coupe de France, alors il n'y aura pas Neymar ni Messi encore. Mbappé et Hakimi seront laissés au repos aussi. Alors il va falloir qu'il gère les mondialistes aussi, Galtier. Il y a un élément qui est important, on évoquait Marquinhos tout à l'heure. Marquinhos, depuis qu'il est rentré du mondial, il explique que mentalement, c'est difficile. Il a fait plusieurs interviews en disant qu'il y avait un certain contre-coup. Comment on gère ça aussi ? Est-ce que ça ne peut pas peser pour les prestations du PSG là ?
Oui, mais ça dépend qui tu es, ce que tu as fait. Si c'est Messi,
ouais, bah lui,
tu peux te dire qu'il a rajeuni de 10 ans. Ouais. Si c'est Marquinhos qui se souvient de son pénalty raté et de son tir dévié qui a fait l'égalisation de la Croatie, eh bien c'est sûr que là, tu te prends un coup de marteau sur la tête. Mais il a raison aussi de dire qu'on doit quand même pouvoir faire mieux. Et là, il y a un poste aussi, Nicolas, qu'il va falloir qu'on en discute un petit peu.
Tu vas parler des gardiens.
Ben oui.
Vas-y.
Ben oui, donc pour moi, je crois que le Paris Saint-Germain a fait un choix. Christophe a fait le choix d'un numéro 1 et d'un numéro 2, puisque la saison dernière, c'était flou. Ils étaient tous les deux numéro 1 et tous les deux numéro 2.
Il a annoncé que Navas jouerait en Coupe de France contre Châteauroux.
Oui, hein. Bon, mais ça, c'est vrai. Mais ça fait quand même 6 mois. Et la question que l'on pouvait se poser pendant ces 6 mois, on est au Paris Saint-Germain, là, qui joue la Champions League. On n'est pas dans le traditionnel club de Ligue 1 où tu as un numéro 1 et un numéro 2. Un garçon comme Donnarumma peut se blesser. Si par exemple Donnarumma se blesse, ben tu fais rentrer donc un Navas qui a jamais joué depuis 3, 4, 5 ou 6 mois. Non.
Il a joué en Coupe du Monde.
En Coupe du Monde, il a joué. Ouais. Donc quand par exemple il est arrivé, ils ont essayé de le regarder de près, ils l'ont regardé avec une loupe parce que ils ont eu du mal à le reconnaître. Et quand ils l'ont vu prendre 7 buts, ce gardien-là qui est très difficile à battre et qui en a pratiquement 3 minimum sur 7 qui sont un petit peu de sa faute, on pouvait quand même deviner que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été sur un terrain de football. Et là, je pense qu'on peut se permettre de la Coupe de France, évidemment, c'est très bien, mais de faire jouer un petit peu de temps en temps quand il y a cette période où il y a les matchs tous les 3 jours. En même temps que tu fais jouer Navas, on ne sait jamais, Donnarumma peut se blesser, mais tu permets à Donnarumma de souffler un petit peu, parce que ce n'est pas facile non plus pour un gardien de but tous les matchs tous les 3 jours.
Jimmy, est-ce que tu crains, toi, pour en revenir à la question précédente, le contre-coup pour les mondialistes là ?
Pour le coup, je pense que Galtier a bien géré ça, de donner, là, tu vois, Mbappé.
Non, mais même mentalement, tu vois.
Oui, mais à un moment donné, tu as des échéances suffisamment importantes, je pense, avec un 8e de finale de Ligue des Champions qui arrive pour
remobiliser
et repartir. Ah, sinon, tu t'en sors pas. Sinon, tous les clubs sont condamnés. Il n'y a pas que des joueurs du PSG qui ont fait la Coupe du Monde. Je parle à l'échelle des gros clubs européens. Tout le monde va devoir se remettre. Et d'ailleurs, c'est déjà remis dans son quotidien de championnat, etc. Mais d'ailleurs, on voit que c'est pas propre au PSG. Tu vois que le Barça a été accroché hier par une Détroit en Coupe du Roi. Ils sont qualifiés en prolongation. Liverpool a perdu contre Brentford. Ça va être dur pour tout le monde. Mais au bout de quelques semaines, je pense que naturellement, avec la Ligue des Champions qui va revenir, il va y avoir une remotivation qui va se faire et ils vont se remettre dedans.
Et juste dernier élément, alors qui a un peu un rapport avec l'aspect mental également. Alors Lens a mis fin à une série de 32 matchs sans défaite, toutes complètes confondues pour le PSG. Vitinha, après le match, il a dit on voulait rester invaincu cette saison, on n'en a pas été capable. Galtier, lui, il a dit totalement l'inverse en conf de presse en disant mais non, c'était pas un objectif. Est-ce que ce truc là, le fait de savoir que bah, finalement c'était une petite carotte au bout du bâton, battre ce record ou du moins être invincible toute une saison, que ce soit tombé, ça peut donner une petite claque finalement et démobiliser les gars?
De là à démobiliser, je pense pas, mais une claque oui, puisque tu te tu te piques au jeu. Donc, tu as envie de rester avec cette invincibilité, même si tu sais ce que je pense des matchs nuls. Pour moi, un match nul, c'est une petite défaite, suivant l'endroit et suivant le match que tu fais. Et donc, là, il va falloir impérativement que le prochain match soit une victoire, pas seulement une victoire, une victoire avec un contenu où la victoire, tu te la construis. Elle ne va pas arriver toujours avec l'exploit de l'un ou de l'autre. Et là, on parlait avant l'émission de ce match contre Châteauroux.
Mais il y a beaucoup d'absents, justement. Ils ne sont pas là, les génies. Donc
faire gaffe. Hein. Ouais. Parce que bon, là, c'est le genre de match. Quand on parle d'un match piège, oui, il peut y avoir 4-0 pour le Paris Saint-Germain, mais bon.
Après, ils sont relégables en national, hein, Châteauroux aussi. Hein. Ils ne sont pas au top de leur forme non plus. Hein. Non, mais bon, ils sont chez eux, ok, c'est la magie de la Coupe de France.
Mais on a quand même, je crois, il est toujours en place, ce règlement, où il n'y a pas de prolongation.
Je ne sais même plus en Coupe de France.
Je crois que c'est directement les tirs au but.
Directement les tirs au but.
Ça augmente les surprises. Hein. Ouais. Si hier, le Barça, il y a ce règlement, ils ont fait 3-3 contre une équipe de 2e ou de 3e division, et après, sait-on jamais les tirs au but.
Juste pour revenir sur l'histoire de l'invincibilité, j'en profite quand même pour rappeler, même si Galtier a dit que c'était pas du tout un objectif, moi je me souviens du début de saison et des articles qu'on avait lus à droite à gauche dans certains journaux où ils avaient dit voilà, notamment après le 7-1 je crois à Lille, oui on a un objectif, c'est de finir invaincu cette saison, etc. Bon, on en a fait beaucoup quand même sur le PSG très vite, très tôt cette saison. On les voyait déjà battre tous les records. Il y avait un papier par semaine sur les
J'ai
records.
J'ai l'impression que c'est toute battus, la semaine, enfin, toutes les saisons comme ça, non? Un peu.
En particulier, moi, je pense cette saison en particulier sur l'histoire de l'invincibilité, il y avait eu des messages voilà, dans le vestiaire. Oui, puis, il y avait eu ce pack.
Puis l'organisation, excuse-moi de te couper, l'organisation à trois arrières centraux donnait raison à tous ceux qui gueulaient la saison d'avant, absolument. Que justement Pochettino n'utilise pas son effectif avec ses deux pistons. Et les trois arrières centraux. Et c'est vrai que les premiers mois, c'était un massacre.
Vas-y, Jimmy.
Mais pour finir, voilà, sur l'histoire de l'invincibilité, je pense que oui, ça leur a mis un petit coup, mais voilà, il y a des échéances. Et je pense que justement, quand tu prends une claque, tu as tout de suite envie de te relever. Et moi, je pense que Châteauroux, je le mets un petit peu à part. Effectivement, c'est un match de coupe. Il n'y aura aucun des trois monstres devant. Mais moi, j'aimerais pas être Angers qui vient au Parc des Princes mercredi prochain. Je pense qu'ils vont avoir un match compliqué, les Angevins au Parc.
Merci Jimmy.
Ben merci à vous. Les
merci beaucoup Roland.
Salut les amis.
Merci à Jimmy et à Jérôme Thomas à la production. Merci Sylvain Kemener à la réalisation. Bisous. Prenez soin de vous.
RMC After Paris.